Peuple Lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Ciboni.
Bonjour et bienvenue dans le Peuple Lu, le rendez-vous littéraire qui met en lumière les écrivains juifs du XXe siècle. De A à Z, de Shalom Hache à Stefan Zweig, de la poésie de Joseph Brodsky aux essais de Simone Weil, de l'Alsacien Claude Vigée au russo-franco-argentin Joseph Kessel, leurs mots vibrent encore. Entre exil et enracinement, tragédie et génie, ces auteurs ont façonné un siècle de littérature tourmenté, lumineux et fondateur. Pour les découvrir ou les redécouvrir, installez-vous et ouvrez grand vos oreilles. Il n'y a pas besoin de crier pour se faire entendre. Tous les enseignants savent cela. Pour se faire entendre, il vaut mieux, parfois, parler plus bas. Elsa Morante est de ces voix qui résonnent sans cri et sans fracas. Née à Rome en 1912, dans un pays déjà très instable, en pleine montée des nationalismes et au bord de la guerre mondiale, elle grandit dans une famille modeste, pleine de zones d'ombre, dont le secret de sa naissance. Sa mère est une institutrice juive. Elle ne connaîtra jamais son père biologique. Très tôt, l'écriture devient pour elle un abri contre la dureté du monde. À 13 ans, elle publie déjà dans des revues pour enfants. Depuis cet abri, elle restera toujours un témoin lucide des petites existences broyées par le grand H de l'histoire. À 18 ans, elle quitte famille et études pour se consacrer à l'écriture. Dans les années 1940, elle épouse Alberto Moravia, immense figure de la littérature italienne dont nous reparlerons. Ensemble, ils connaissent l'exil intérieur et les persécutions antisémites sous le régime fasciste. L'angoisse, la fuite, la peur diffuse sont des presque rien qui irriguent profondément son œuvre. Elle restera 20 ans avec Moravia, pendant lesquels elle publiera « Mensonges et sortilèges »,« Storia di mia nonna » en italien, puis « L'île d'Arturo » et le recueil de nouvelles « Le châle andalou ». Après-guerre, elle voyagera beaucoup, se liera d'amitié avec Bertolucci, Ginsburg, Pasolini, et participera même à quelques-uns de ses films. Le roman le plus célèbre de Morante, La Storia, publié en 1974, est un bouleversement. Par son ampleur d'abord, plus de 600 pages, mais surtout par son sujet. La guerre vue d'en bas, par les yeux d'une femme pauvre et de son fils né d'un viol. Morante y dit l'absurdité de la guerre et la détresse des êtres anonymes que l'histoire écrase sans pitié. Le succès est immense, le scandale aussi. Certains l'accusent de misérabilisme. Mais beaucoup y reconnaissent une vérité crue, déchirante et sensible. Parce que chez Morante, derrière la noirceur, il y a une tendresse pour les humiliés, une mélancolie presque enfantine. Elsa Morante n'a jamais cessé d'être cette petite fille qui écrivait des contes pour survivre. Elle reçoit en 1984 le prix Médicis pour Aracoeli, un roman sur la mort de Pasolini. Jusqu'à sa mort l'année suivante, elle restera l'autrice des destins minuscules, fragiles et bouleversants. D'ailleurs, tout de suite, une pause musicale qui vous renverra à l'Italie du XXe siècle, intime et historique, et que vous connaissez tous, par Nino Rota, qui a vécu la même période qu'Elsa Morante. La valse du parrain, par Nino Rota.
Thank you.
Vous avez donc reconnu Le Parrain par Nino Rota. Pour rester dans l'Italie du XXe siècle, quelques extraits d'Elsa Morante. D'abord, commençons par le commencement, l'incipit de La Storia. Un jour de janvier de l'an 1941, un soldat allemand, jouissant d'un après-midi de liberté, se trouvait seul, en train de flâner dans le quartier de San Lorenzo, à Rome. Il était environ 2 heures de l'après-midi, et à cette heure-là, comme d'habitude, peu de gens circulaient dans les rues. Aucun des passants d'ailleurs ne regardait le soldat, car les Allemands, bien que camarades des Italiens dans la présente guerre mondiale, n'étaient pas populaires dans certaines périphéries prolétaires. Et ce soldat ne se distinguait pas des autres de la même série. Grand, blond, avec l'habituel comportement de fanatisme disciplinaire, et avec, en particulier dans la position de son calot, une correspondante expression provocante. Et naturellement, plus loin, dans la storia, qui devient plus politique, le mot « fascisme » est de frappe récente, mais il correspond à un système social de décrépitude préhistorique, absolument rudimentaire et même moins évolué que celui en usage chez les anthropoïdes, comme peut le confirmer quiconque a des notions de zoologie. 2. Ce système est fondé, en effet, sur la domination par la violence de ceux qui sont sans défense, peuple, classe ou individu, par ceux qui disposent des moyens d'exercer la violence. 3. En réalité, depuis les origines primitives, universellement et tout au long de l'histoire de l'humanité, il ne subsiste pas d'autre moyen que celui-ci. Récemment, on a donné le nom de fascisme ou de nazisme à certains de ces manifestations extrêmes d'ignominie, de démence et d'imbécilité propres à la dégénérescence bourgeoise. Mais le système en tant que tel est en activité toujours et partout, sous des apparences et des noms différents, voire contradictoires. Toujours et partout, depuis le début de l'histoire de l'humanité. Pessimiste, c'était des extraits de La Storia d'Elsa Morante. Pour en parler, avec un accent bien plus charmant et plus juste que le mien, l'invité qui m'a fait découvrir Elsa Morante. Nous recevons Lucrezia Siboni, coach en développement personnel à Strasbourg, enseignante d'italien à l'INSP, anciennement l'ENA, et autrice d'une thèse en littérature italienne intitulée « Image de l'autre, représentation du juif dans la littérature italienne du XIIIe au XVIe siècle ». C'est un peu impressionnant, Lucrezia, j'espère que tu me corrigeras. À la lecture de ces extraits, on se demande naturellement pourquoi avoir choisi Elsa Morante et pourquoi maintenant ?
Alors, Elsa Morante est tout à fait d'actualité. Même si on voulait faire esprit, on n'aurait pas pu faire mieux. Donc, les livres n'ont pas d'âge. Ils parlent toujours à ceux qui les lisent, pour ce qu'ils disent, mais surtout pour le fait de allumer chez l'autre une lumière qu'ils avaient éteinte, peut-être. Des fois plus, des fois moins. Et donc, ça va au-delà du temps. Parfois, et là c'est pour ça que je dis on n'aurait pas pu faire mieux, donc si on lisait Elsa Morante il y a 10 ans, elle était quand même toujours un peu d'actualité, bien évidemment, mais on y aurait trouvé des choses, mais là on n'a même pas besoin de les chercher, ça parle d'actualité.
Toi particulièrement, qu'est-ce qui t'a parlé, qu'est-ce qui a fait écho chez Elsa Morante ?
Alors, quand j'ai lu Elsa Morante, je l'ai il y a longtemps déjà, ce qui faisait écho, c'était l'histoire. La petite histoire, alors tu as parlé de histoire avec un grand H, moi je dirais histoire avec un grand S, parce que c'est la storia, et justement j'étais perplexe avec un grand H, mais en fait j'ai tout de suite compris, mais bon, voilà. C'est sûr qu'il y a la storia qui nous dépasse, una storia majuscule, qui est plus grande de nous, le fameux « on est des nains sur des épaules de géants », Donc voilà, on est tout petit face aux géants de l'histoire derrière nous aussi, entre autres bien sûr. Mais en même temps, voilà, on est un petit peu plus en haut, on regarde, on a quelques centimètres pour regarder un peu plus loin. Donc il y a l'histoire gigantesque qui est avec un grand S, et nous on est petits dans cette histoire, mais quand même on l'a créée aussi un petit peu. Et pour les quelques années qu'on a pour faire cette histoire. Donc c'est l'histoire des petits dans la grande histoire, mais qui fera un jour partie aussi de ce géant.
Donc, et c'est important pour ça que ce soit une voix féminine, pour raconter l'histoire vue d'en bas, l'histoire par les petits.
La réponse qui serait logique, ça serait oui, bien évidemment. J'oserais dire oui, bien sûr, parce que... presque peu importe aussi, dans le sens que c'est bien que ça soit... alors là, c'est une histoire vue par les yeux d'une femme, et donc avec la délicatesse aussi qu'une femme peut y apporter. Une petite femme, je dis petite entre guillemets, à l'époque, elles n'avaient pas... Voilà, ce n'était pas encore la voix des femmes en littérature, donc une petite voix que pour l'époque, par contre, elle était... Elle hurlait, même si c'était une petite voix. Maintenant, dans l'histoire, S minuscule, dans la grande S, les voix se confondent. Et que ça soit féminin ou masculin, dans le grand géant de l'histoire, je dirais peu importe, c'est ce qu'on en fait de l'histoire.
C'est déjà bien qu'on puisse distinguer l'œuvre de Morante et l'œuvre de Moravia. Même s'ils ont vécu ensemble pendant près de 20 ans, elle n'a pas été écrasée par l'ombre de son mari, je veux dire.
Oui, alors non seulement elle n'a pas été écrasée, mais l'histoire veut que quand ils sont partis justement pour fuir les lois raciales, alors Elsa Morante et Moravia. Ils étaient... c'était les autres qui avaient décidé quelque part qu'ils étaient juifs, plus de ce que eux se considéraient juifs. Dans le sens que les lois raciales les avaient unis aussi dans ce côté juif. Elsa Morante était fille, sa mère était juive, son père n'était pas juif. Elle n'avait pas du tout grandi dans un contexte... religieux, on va dire. Moravia, il n'était pas juif dans le sens, sa mère n'était pas juive, c'était son père qui était juif, mais pour les lois raciales, les deux se retrouvaient avec cette étiquette et à devoir donc fuir. Quand ils se sont messés pendant cette fuite, qu'il y a eu encore plus la possibilité, l'envie d'écrire. Donc, voilà.
Oui, c'est là que Morante a commencé son œuvre. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais on a déjà écouté un beau cliché tout à l'heure avec le parrain. Moi, de l'Italie, je connais surtout les lasagnes, le tiramisu, les amaretti. Mais si Elsa Morante était un plat ou une pâtisserie, qu'est-ce qu'elle serait ?
Lasagne, tiramisu, amaretti. Mais l'accent bien. Si, déjà. Ça, c'est la preuve qui parle. Mais alors, qu'est-ce que ça serait ? Quelque chose de... Alors, parmi les trois, plutôt un amaretto. Voilà. Mais parce que petit... dur de l'extérieur, mais au cœur tendre. Voilà.
Oh, c'est une belle image. Et par Quelle œuvre tu recommanderais aux auditeurs de commencer? Est-ce que tu recommandes de tout de suite se lancer dans les 600 pages de la Storia ou de commencer d'aborder l'œuvre de Morante par d'autres textes?
La Storia, puisque c'est la grande, la grande Storia, mais qui contient des petites histoires de petits grands gens.
Et dernière question, là je m'adresse plus justement à l'enseignante en italien. Là, à partir des extraits qu'on a lus tout à l'heure, tu penses quoi de ces traductions en français?
Traduttore et traditore, on dit toujours.
C'est il vaut mieux la lire en langue originale.
C'est, voilà. Maintenant, heureusement qu'ils existent, les traducteurs, parce que voilà, sinon on n'aurait pas accès au moins aux 90% d'un livre. Donc tant mieux qu'il existe les traducteurs. Maintenant, si les traductions sont pas tout à fait exactes, ça dépend aussi du traducteur et de son. C'est pas que de la grammaire qu'on traduit, on traduit aussi un sentiment. Et donc, ça fait miroir aussi. Donc, trois traducteurs qui doivent traduire, à la limite même le même mot, ils pourraient en donner trois différents. Si la langue est riche.
Tout à fait. Alors c'est
le cas pour l'italien.
Et c'est vrai. Et bien ça fait un beau défi pour nos auditeurs et nos auditrices, surtout pour ceux et celles qui apprennent ou qui connaissent l'italien, de se lancer dans les 600 pages de la Storia, de prendre à bras le corps, en version originale si possible, pour ceux qui seraient motivés. Un beau défi. Merci beaucoup Lucrezia Siboni d'être intervenue sur l'œuvre d'Elsa Morante. À bientôt.
Le Peuple Lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Siboni.